Dans le système de Tian Shan, les autorités de la Pax étaient déconcertées. Quand le capitaine Walmack reçut, à bord du Jibril, l'étrange signal d'alarme pulsé émanant de l'enclave de la Pax, à Shivling, il essaya d'appeler le cardinal Mustapha et ses compagnons, mais n'obtint aucune réponse. En quelques minutes, il y expédia un vaisseau de descente avec 2 douzaines de marines et 2 médics. Le rapport lancé en liaison montante par faisceau étroit n'éclaira pas la situation. La salle de conférence de leur Gompa enclave était dans un état effrayant. Tout éclaboussé de sang et de viscères humains. Le seul corps à peu près entier était celui du grand inquisiteur, estropié et aveuglé. Ils identifièrent l'ADN des plus grosses éclaboussures de sang artériel et trouvèrent que c'était celui du père Farrell. Le reste appartenait à l'archevêque Breck et à son assistant, Leblanc. Mais pas de cadavre. Pas de cruciforme. Les médics diagnostiquèrent que le cardinal Mustapha était dans le coma, en profond état de choc, et quasiment mort. Ils firent tout ce qu'ils purent pour stabiliser son état avec leurs trousses de terrain et demandèrent des ordres. Devait-on laisser le grand inquisiteur mourir pour qu'il soit ressuscité, ou le confier à l'autochirurgien du vaisseau de descente et tenter de le sauver en sachant qu'il faudrait plusieurs jours avant qu'il reprenne conscience et puisse décrire l'attaque? Ou bien le médic pouvait-il le mettre dans le caisson de survie, utiliser des médicaments pour le tirer du coma et l'interroger quelques minutes, pendant lesquelles le patient subirait d'atroces souffrances et serait sur le point de mourir? Walmack leur ordonna d'attendre et contacta par faisceau étroit l'amiral Lamprière, le commandant du corps expéditionnaire. Hors du système de Tian Shan, à plusieurs UA de distance, la quarantaine de vaisseaux qui s'étaient battus avec le Raphaël secouraient les survivants des archanges définitivement mis hors service et attendaient le drone papal ainsi que le vaisseau robot du technocentre qui devait mettre la population de la planète en animation suspendue. Ni l'un ni l'autre n'arrivèrent. L'Emprière était tout proche, à 4 minutes-lumière, et le faisceau étroit prendrait le même temps pour l'atteindre et le faire passer en 4e. Mais Walmack n'avait pas d'autre option. Il attendit pendant que son message sortait à pleine vitesse du système. À bord du vaisseau amiral, le Ragel, l'Emprière se trouva dans une situation délicate. Il ne disposait que de quelques minutes pour décider du sort de Mustapha. S'il laissait le grand inquisiteur mourir, il faudrait probablement 2 jours pour que sa résurrection réussisse. Le cardinal souffrirait peu. Mais la cause de cette attaque, le Gritch, les indigènes, les disciples du monstre aîné, des extros, resterait un mystère. L'Emprière mit 10 secondes à se décider, mais le faisceau étroit prit 4 minutes aller et 4 minutes retour.
Que les médics le stabilisent!
Transmit-il à Walmack, à bord du Jibril, en orbite autour de la planète des montagnes.
« Installez-le dans le caisson de survie du vaisseau de descente. Sortez-le du coma et interrogez-le. Quand nous en saurons assez, que l'autochirurgien fasse son diagnostic. S'il est plus rapide de le ressusciter, laissez-le mourir. »
« Oui, oui, amiral. »
dit Walmack 4 minutes plus tard, et il retransmit l'ordre aux marines. Pendant ce temps, ceux-ci avaient élargi leur champ d'investigation en utilisant leur paquetage à réaction de VEM pour fouiller les falaises verticales autour du phallus de Shiva. Ils balayèrent au radar les profondeurs de Ranzo, le lac de la loutre comme on l'appelait, et ni décelèrent ni loutre, ni cadavre de prêtre. Il y avait eu une garde d'honneur de 12 marines dans l'enclave, plus le vaisseau de descente, mais ces hommes et ces femmes avaient aussi disparu. On trouva du sang et des viscères, et on en identifia l'ADN, ce qui éclaira le sort de la plupart des disparus, mais on ne découvrit pas leur corps.
« Devons-nous étendre nos recherches au palais d'hiver ?»
demanda le lieutenant responsable de l'opération. Tous les marines avaient reçu l'ordre spécifique de ne pas déranger les habitants de la planète, surtout le Dalaï Lama et ses gens, avant que le vaisseau du technocentre soit arrivé pour mettre la population au sommeil.
« Attendez une minute !» dit Walmack.
Il voyait que le rapporteur moniteur de l'amiral Lamprière était allumé. La disclécom de son réseau de commande clignotait aussi. C'était l'officier de renseignement du Jibril, en bas dans la bulle de détection.
« Oui. Mon capitaine, nous avons monitoré visuellement le palais et ses environs. Il s'est passé quelque chose de terrible.
Quoi ?»
demanda sèchement Walmack. Cela ne ressemblait pas à l'un des membres de son équipage d'être aussi vague.
« Nous l'avons raté, mon capitaine, »
dit l'officier des services secrets. C'était une femme jeune mais intelligente, l'Empereur le savait.
« Nous utilisons les optiques pour surveiller le territoire autour de l'enclave. Mais regardez ça. »
Wolmak tourna un peu la tête pour observer la fosse holo qui se remplissait d'une image. Il savait que celle-ci était aussi transmise par faisceau étroit à l'amiral. Le côté est du palais d'hiver à Potala, vu de quelques centaines de mètres au-dessus du pont Kishu. Le tablier rétractable avait disparu. Mais sur les marches et les terrasses s'étageant entre le palais et le pont, et sur des saillies étroites du gouffre qui bâillaient entre le palais et le monastère de Drepung, il y avait des douzaines de corps, des centaines, ensanglantés et démembrés.
« Mon Dieu !»
dit le capitaine Wolmak et il se signa.
« Nous avons identifié la tête du régent, Tokra Reting, parmi les morceaux de cadavres, »
dit la voix calme de l'officier des services secrets.
« La tête !»
répéta Wolmak, qui s'aperçut que son exclamation superflue avait été envoyée à l'amiral avec tout le reste de sa transmission. Dans 4 minutes, l'amiral Lamprière saurait que Wolmak faisait des commentaires stupides.
Tant pis. Y avait-il un autre personnage important ?
Demanda-t-il.
Négatif, mon capitaine. Mais ils sont en train de transmettre sur différentes fréquences radio.
Wolmak haussa un sourcil. Jusqu'à maintenant, le palais d'hiver avait gardé le silence sur ses émetteurs radio et son faisceau étroit.
Que disent-ils ?
C'est en mandarin et en tibétain post-égyrien, mon capitaine, répondit l'officier.
Mais rapidement, elle poursuivit.
Ils sont paniqués, mon capitaine. Le Dalai Lama a disparu, ainsi que le chef de la sécurité de l'enfant Lama. Le général Sur Kangse Wanchenpo, le chef de la garde du palais, est mort. Ils ont confirmé que son corps décapité a été trouvé, là.
Wolmak jeta un coup d'œil à sa montre. L'émission sur faisceau étroit était à mi-chemin du vaisseau de l'amiral.
« Qui a fait cela ? Le Gritch ?»«
Je ne sais pas, mon capitaine. On m'a dit qu'il y avait des caméras partout. » Nous allons visionner les films.
Faites !
Wolmak ne pouvait pas attendre plus longtemps. Il lança un message sur faisceau étroit au lieutenant des Marines.
Lieutenant, allez au palais. Voyez ce qui s'y passe. Je vais envoyer 5 autres vaisseaux de descente, des VEM de combat et un hélicoptère militaire. Cherchez les corps de l'archevêque Breck, du père Farrell ou du père Leblanc. Ainsi que du pilote et de la garde d'honneur, bien sûr.
Oui, mon capitaine.
La liaison du faisceau étroit passa au vert. L'amiral était en train de recevoir la dernière transmission. Trop tard pour attendre ses ordres. Wolmak envoya un message aux 2 astronefs de la Pax les plus proches, des vaisseaux torches postés au-delà de la lune extérieure, et leur ordonna de se mettre en état d'alerte et de décélérer pour se placer en orbite synchrone avec le Jibril. Il aurait peut-être besoin de leur puissance de feu. Wolmak avait déjà vu l'œuvre du Gritch, et l'idée que cette créature puisse apparaître sur son vaisseau lui donnait la chair de poule. Il prit contact par faisceau étroit avec le capitaine Samuels à bord de son vaisseau torche, le VSS Saint-Bonaventure.
« Carole, » dit-il à l'image du capitaine très surpris, « mettez-vous en espace tactique, je vous prie. »
Wolmak se brancha sur le système et se retrouva debout au-dessus de la planète nuageuse scintillante de Tien Shan. Samuels apparut soudain à côté de lui dans les ténèbres étoilées.
« Carole, il se passe quelque chose là en bas. Je pense que peut-être le Gritch est encore en cavale. Si le Jibril cesse soudain de vous transmettre de l'information, ou si nous commençons à crier d'une manière incohérente, je lancerai 3 vaisseaux de Marines. Négatif. Scorifiez le Jibril. Immédiatement. »
Le capitaine Samuels cligna des yeux. Comme le clignotant du rapporteur flottant montrait que le vaisseau amiral envoyait un message sur faisceau étroit, Wolmak sortit de l'espace tactique. Le message était bref.
« J'ai surgiré le Ragel pour effectuer un saut dans le système, juste au-delà du puits gravitationnel critique de Tien Shan. »
Le visage maigre de l'amiral Lamprière était grave. Wolmak ouvrit la bouche pour élever une protestation, puis se rendit compte que celle-ci arriverait presque 3 minutes après le saut en propulsion Hawking, et il garda le silence. Un saut de ce type dans un système était horriblement dangereux. Il y avait une chance sur quatre, au moins, pour qu'ils aient un désastre sur les bras, mais il comprit que l'amiral avait besoin de se trouver à proximité de ses sources d'information, et ses ordres furent immédiatement exécutés. « D'où Jésus ?» pensa Walmack. Le grand inquisiteur réduit à l'impuissance, l'archevêque et les autres disparus. Le palais de ce Dalaï Lama l'a contransformé en fourmilière qu'on a bourrée de coups de pied. Et ce putain de Gritch ? Où est le courrier drone qui devait nous amener les ordres du pape ? Où est ce vaisseau du centre qu'on nous avait promis ? Comment les choses ont-elles pu empirer ainsi ?
Capitaine ?
C'était le médic en chef des marines du corps expéditionnaire qui envoyait un message de l'infirmerie du vaisseau de descente.
Au rapport.
Le cardinal Mustapha a repris conscience, mon capitaine. Il est toujours aveugle, bien sûr, et souffre horriblement, mais...
Passez-le-moi.
Un terrible visage emplit la holosphère. Le capitaine Walmack sentit tous ceux qui étaient sur le pont reculer. La figure du grand inquisiteur était ensanglantée. Ses dents, découvertes par le cri qu'il poussait, étaient rouges vifs. Dans ses orbites déchirées et vides, il ne restait que des lambeaux de tissu organique arrachés et des ruisselets de sang. Tout d'abord, le capitaine ne put distinguer le mot du hurlement. Mais il finit par comprendre ce que le cardinal criait.
« Némès ! Némès ! Némès ! »
Les machines appelées Némès, Scylla et Briarée continuent vers l'est. Tous trois restent en changement de phase, oublieux des quantités atterrantes d'énergie que cela consomme. Celle-ci leur vient d'ailleurs. Ce n'est pas leur problème. Toute leur existence n'avait pour but que cette heure-ci. Après le massacre qui s'est déroulé hors du temps sous la porte ouest de Pargokaling, ils se dirigent vers la tour, Némès en tête, et franchissent l'abîme par les grands câbles de métal qui maintiennent le pont suspendu. Tous trois traversent au trot la place du marché de Drepung, trois silhouettes mobiles se déplaçant dans l'air épaissi, ambré, passent devant des formes humaines figées sur place. Sur celle de Fari, les milliers de statues humaines achetant, flânant, riant, discutant, se bousculant, amènent un sourire sur les lèvres minces de Némès. Elle pourrait les décapiter tous sans qu'ils soient le moins du monde avertis de leur destruction. Mais elle a un objectif. À la crête du Fari, garde-jonction de la voie du câble, tous trois se déphasent, sinon la friction sur le câble poserait problème.
Scylla, la voie haute du nord, émet Némès sur la bande commune. Briarée, le pont du milieu. Moi, je prends la voie du câble.
Ses clones hochent la tête, miroitent et disparaissent. Le maître du câble s'avance pour protester parce que Némès a bousculé les douzaines de passagers qui faisaient la queue. C'est une heure de pointe. Radamante, Némès saisit le maître du câble et le lance par-dessus le bord de la plateforme. Une douzaine d'hommes et de femmes en colère foncent vers elle en criant, résolus à le venger. Némès saute de la plateforme et saisit le câble. Elle n'a ni poulie, ni frein, ni harnais d'escalade. Elle change uniquement de phase les paumes de ses mains inhumaines et descend à toute allure en direction de la crête du Kunlun. La foule en colère se lance sur le câble et la prend en chasse. Une douzaine, deux douzaines, plus. Beaucoup d'entre eux aimaient bien le maître du câble. Némès ne met que la moitié du temps habituel pour franchir le grand abîme séparant les crêtes du Fari et du Kunlun. Elle freine maladroitement à l'arrivée et s'écrase sur le roc, changeant de phase au dernier instant. Elle s'arrache au trou qu'elle a creusé dans la paroi, maintenant en train de s'effondrer, et retourne au câble. Les poulies gémissent lorsque les premiers poursuivants descendent les 100 derniers mètres en donnant de la bande. D'autres s'échelonnent jusqu'à l'horizon, perles noires sur un fil mince. Némès sourit, change ses deux mains de phase, lève les bras et rompt le câble. Elle s'étonne que peu, parmi cette douzaine d'hommes et de femmes condamnés à mort, crient en glissant du câble qui se tord. Némès trotte jusqu'aux lignes statiques, grimpe à main levée, et puis les arrache toutes, cordes d'ascension, cordes de rappel, cordes de sécurité, toutes. Cinq membres armés de la police de Siwangmu lui font face sur la ligne de crête, juste au sud du glissoir. Elle ne change de phase que son avant-bras gauche, et les envoie d'une piche nette dans le vide. Tournée vers le nord-est, Némès passe en vision infrarouge et télescopique. Elle zoome sur le grand pont de bambou bonsaï qui se balance et relie les promontoires de la voie haute entre la crête du Fari et celle du Kunlun. Pendant qu'elle regarde, le pont s'effondre. Les lattes, les lianes et les câbles se tordent en se repliant vers la ligne de crête ouest, la partie la plus basse tombe dans les nuages de phosgène.
C'est fait, émet Briaré. Combien y en avait-il dessus ?
Demande Némès.
Beaucoup.
Briaré coupe la communication. Une seconde plus tard, Scylla se connecte.
Le pont du Nord est abattu. Je détruis la voie haute au fur et à mesure que j'avance.
Bien, émet Némès.
Je vous retrouve à Jokung.
Tous trois se déphasent en traversant la crevasse habitée à Jokung. Il tombe une pluie fine, les nuages sont aussi épais que le brouillard d'été. La mince chevelure de Némès est collée à son front et elle remarque que Scylla et Briaré présentent le même aspect. La foule s'écarte pour les laisser passer. La route de corniche menant au temple suspendu dans les airs est vide. Némès est en tête lorsqu'ils arrivent au dernier petit pont suspendu avant la corniche qui court sous l'escalier montant au temple. C'est le premier artefact restauré par Aîné, un simple tablier de 20 mètres qui se balance au-dessus d'une fissure étroite, entre des flèches de dolomie s'élevant à 1000 mètres au-dessus des rochers escarpés les plus bas et de la cime des nuages empoisonnés. Et maintenant, ceux de la mousson s'enflent autour de la structure qui dégoûte. Invisible dans les nuées denses, quelque chose attend sur la corniche de l'autre côté du pont. Némès passe en imagerie thermique et sourit quand elle voit qu'aucune chaleur ne rayonne de la grande silhouette. Elle lui envoie un signal radar généré par son front et étudie l'image. 3 mètres de haut, des épines, des doigts en forme de lame, 4 mains géantes, une carapace qui réfléchit parfaitement le radar, des lames pointues sur la poitrine et sur le front, pas de respiration, des barbelés acérés sur les épaules et des pointes de fer sur le front.
Parfait, émet Némès. Parfait,
acquiesce Scylla et Briaré. La silhouette à l'autre extrémité du pont ruisselant n'émet aucune réponse. Nous réussîmes à atteindre la montagne à quelques mètres près. Une fois tombés de la partie la plus basse du jet stream, notre descente fut régulière et irréversible. Il y avait quelques thermiques au-dessus de l'océan de nuages et beaucoup de courants descendants. Nous avions parcouru la première moitié de la trouée de 100 clics en quelques minutes d'une accélération saisissante. La seconde fut une descente effrayante. Tantôt, j'étais certain que nous réussirions avec plus de chance qu'il n'en fallait, tantôt plus certain encore que nous allions tomber dans les nuages de phosgène, sans même voir nos morts s'élever pour nous envelopper avant que les ailes de nos appareils frappent la mer acide. Nous pénétrâmes bien dans des nuages, mais c'était ceux de la mousson, des nuages de vapeur d'eau, des nuages respirables. Nous volions tous trois aussi proches que nous le pouvions les uns des autres, delta bleu, delta jaune, delta vert, le métal et le tissu de nos ailes se touchant presque, car nous avions bien plus peur de nous perdre de vue et de mourir seuls que de nous heurter et de tomber ensemble. Aîné et moi avions le comfil, mais nous ne nous parlâmes qu'une seule fois durant cette descente pleine d'incertitudes. Le brouillard s'était épaissi, j'apercevais à peine son aile jaune à ma gauche et je me disais «
Elle a eu un enfant. Elle a épousé quelqu'un d'autre. Elle a aimé un autre homme. »
Quand j'entendis sa voix dans l'écouteur de ma combinaison.
« Roll ?»«
Oui, ma grande.
Je t'aime, Roll. »
J'hésitais l'espace de quelques battements de cœur, mais le vide émotionnel qui m'avait tiraillé un moment plus tôt fut balayé par un élan d'affection pour ma jeune amie et mon aimée.
« Je t'aime, aîné. »
Nous fûmes emportés plus profondément dans l'obscurité. Je crus sentir une odeur âcre dans le vent. La lisière des nuages de phosgène.
« Ma grande ?»« Oui, Roll ?»
Sa voix était un chuchotement dans mes oreilles. Nous avions tous deux ôté nos masques à osmose, je le savais, bien qu'ils nous aient probablement protégés du phosgène. Nous ignorions si Abétic pouvait respirer le poison. S'il en était incapable, le plan tactique que nous avions élaboré, Aîné et moi, consistait à receler nos masques, à tenter d'atteindre les bords de la montagne avant d'arriver à la mer acide, à remonter la pente en traînant l'androïde et à le sortir de l'air empoisonné, si nous le pouvions. Nous savions tous deux que notre projet était peu convaincant. Le radar de bord durant ma descente sur cette planète m'avait montré que la plupart des pics et des arêtes tombaient à pic sous la couche de nuages de phosgène et qu'il ne s'écoulerait que quelques minutes entre notre entrée dans les nuages empoisonnés et notre chute dans la mer. Mais il valait mieux avoir un plan que de s'en remettre au destin. Entre-temps, nous avions relevé nos masques et respirions l'air frais tant que nous le pouvions.
« Ma grande, dis-je, si tu sais ce qui va arriver, si tu as vu ce que tu crois être ma mort ?»
Elle termina la phrase pour moi. Je n'arrivais pas à dire cela tout haut. Je hochais stupidement la tête. Elle ne pouvait pas me voir au travers des nuages qui nous séparaient.
« Il n'y a que des possibilités, Rol, »
poursuivit-elle doucement.
« Celle que je connais, la plus probable, n'est pas celle-ci. Ne t'inquiète pas, je ne vous aurais pas demandé à tous les deux de venir avec moi si j'avais pensé que c'était ça. »
Il y avait de l'humour dans sa voix, derrière la tension.
« Je sais, » dis-je,
bien content que Abétic ne puisse pas capter notre conversation.
Je ne pensais pas à cela.
Je m'étais dit que peut-être elle savait que l'androïde et moi réussirions, mais pas elle. Je ne le croyais plus maintenant. Aussi longtemps que mon destin serait mêlé au sien, je pouvais accepter n'importe quoi.
Je me demandais juste pourquoi nous devions filer de nouveau, ma grande. J'en ai assez de fuir devant la Pax. Moi aussi. Et fais-moi confiance, Rol. Nous ne ferons pas que cela. Oh, merde!
Cela ne constituait pas une remarque de Messie digne d'être citée, mais en une seconde, je vis la raison de son cri. Un versant rocheux était apparu à 20 mètres devant nous, de grandes pierres visibles entre des pentes d'éboulis et des falaises à pic. Abétic arriva le premier, tira sur sa barre de commande à la dernière minute et libéra ses pieds des étriers du gréement en utilisant le deltaplane comme un parachute. Il rebondit 2 fois sur ses bottes et rabattit rapidement l'appareil en se dégageant brutalement du harnais. L'homo nous avait montré de nombreuses fois combien il était important, sur les lieux d'atterrissage dangereux et éventés, de se séparer rapidement de la paravoile pour qu'elle ne vous entraîne pas par-dessus un rebord. Et là, il y en avait nettement un par-dessus lequel on pouvait être entraîné. Aîné atterrit la deuxième, et moi quelques secondes après. Je commis l'atterrissage le plus maladroit des trois, rebondissant trop, retombant presque dans le vide, me tordant la cheville sur des petites pierres et tombant à genoux pendant que la paravoile heurtait violemment un gros rocher qui fit plier le métal et déchira l'étoffe. L'appareil bascula en arrière et essaya de me précipiter par-dessus le bord de l'escarpement, juste comme l'homo nous l'avait dit. Mais Abétic s'agrippa aux traverses, aîné saisit l'espar gauche qui se brisa une seconde plus tard, et ils stabilisèrent le deltaplane assez longtemps pour que j'arrive avec difficulté à sortir de mon harnais et fasse quelques pas vacillants afin de m'écarter du naufrage en tirant mon sac derrière moi. Aîné s'agenouilla à mes pieds sur les rochers froids et humides, défit ma botte et examina ma cheville.
Je ne pense pas qu'elle soit gravement foulée. Elle enflera peut-être un peu, mais tu devrais pouvoir marcher.
Bien, dis-je stupidement, conscient seulement de ses mains nues sur ma cheville. Puis je sursautai un peu lorsqu'elle vaporisa quelque chose de froid sorti de son Medipack sur la chair tuméfiée. Ils m'aidèrent tous deux à me relever, nous rassemblâmes notre équipement et commençâmes, bras dessus, bras dessous, à gravir la pente glissante vers l'endroit où les nuages rougeoyaient le plus. Nous émergeâmes à la lumière du soleil sur les pentes sacrées du Taishan. J'avais ôté mon masque et rejeté mon capuchon, mais Aîné me suggéra de garder ma combinaison. J'enfilai ma veste thermique pour me sentir moins nu et remarquai que mon ami faisait de même. Abétic se frottait les bras et je vis que le froid avait gelé sa chair au point de la rendre presque blanche.
« Ça va ?»
lui demandai-je.
« Très bien, à Chandimion. Mais quelques minutes de plus à cette altitude ?»
Je baissai les yeux et regardai les nuages, à l'endroit où nous avions replié et laissé les appareils endommagés.
Je suppose que nous n'allons pas repartir de cette montagne avec les deltaplanes.
Exact, dit Aîné. Regarde.
nous étions passés des champs de grosses pierres et des pentes d'éboulis à des plateaux herbus entre de grands escarpements, prairies de plantes succulentes où s'entrecroisaient les chemins de Zichèvre et les Gués. Des ruisseaux de glace fondue coulaient faiblement sur les rochers, mais il y avait des ponts faits de dalles de pierre. Au loin, quelques bergers nous regardaient poursuivre notre ascension d'un air impassible. Après un tournant en épingle à cheveux, nous vîmes, en levant les yeux, des temples de pierre blanche sur des remparts gris. Les bâtiments scintillants, lumineux sous les étendues de glace blanc-bleu et les pentes neigeuses qui montaient jusqu'au zénith bleu et disparaissaient à la vue, ressemblaient à des hôtels. Ce qu'Aîné nous montrait du doigt, c'était une grande pierre blanche qui se dressait au bord du sentier. Un poème était gravé sur sa paroi polie. À quoi pourrais-je comparer le grand pic? Il domine les provinces environnantes et sa teinte bleu-vert jamais ne s'atténue. Infusé par le façonneur du pouvoir croissant de la divinité, ses pentes, à l'ombre et au soleil, séparent la nuit du jour. Je grimpe vers les nuages, la poitrine haletante, les yeux fixés sur les oiseaux qui rentrent chez eux. Un jour, j'atteindrai son sommet sans égal et embrasserai tous les monts d'un seul coup d'œil. Tu Fu, dynastie Tang, Chine, ancienne terre. C'est ainsi que nous entrâmes dans Taishan, la cité de la paix. Sur les pentes s'égrenaient des douzaines de temples, des centaines de boutiques, d'auberges et de maisons particulières, d'innombrables sanctuaires et une rue animée avec des étals que des stores en tissu coloré protégeaient du soleil. Les gens d'ici étaient beaux à voir, cette expression est insuffisante, mais c'est la seule qui convienne, je pense. Tous avaient des cheveux noirs, des yeux brillants, des dents étincelantes, une peau saine, et un maintien, un pas, vigoureux et fier. Leurs habits de soie et de coton teints de vives couleurs étaient d'une élégance simple, et il y avait beaucoup, beaucoup de moines en robes orange et rouge. On leur aurait pardonné s'ils nous avaient dévisagés, personne ne venait à Taishan durant la mousson, mais tous les regards que je vis étaient chaleureux et tranquilles. Beaucoup de ceux qui se trouvaient dans la rue se pressèrent autour de nous, saluant Aîné par son nom et touchant sa main ou sa manche. Je me souvins alors qu'elle était déjà venue ici. Aîné attira notre attention sur la grande dalle de pierre blanche qui recouvrait un coteau, au-dessus de la cité de la paix. Sur sa face polie, on avait gravé en immense caractère chinois, nous expliqua-t-elle, le Sutra du Diamant, l'une des principales œuvres de la philosophie bouddhiste qui rappelait aux moines et aux passants la nature ultime de la réalité, symbolisée par l'étendue vide de ciel bleu suspendu au-dessus de leur tête. Aîné nous signala aussi la première porte céleste, aux abords de la cité, une gigantesque arche de pierre sous un toit rouge de pagode, où commençait l'escalier de 27 000 marches montant vers le sommet de jade. Chose incroyable, notre arrivée était prévue. Dans le grand Gompa, au centre de la cité de la paix, plus de 1 200 moines en robe rouge assis en tailleur attendaient patiemment Aîné. Le lama l'accueillit avec un profond salut, elle aida le vieil homme à se remettre debout et le serra dans ses bras, puis Abétik et moi nous assîmes d'un côté de l'estrade basse couverte de coussins, pendant qu'Aîné s'adressait à la multitude.
« J'ai dit, au printemps dernier, que je reviendrais à cette époque, »
dit-elle d'une voix douce parfaitement claire dans ce grand espace d'allée de marbre.
« Et mon cœur se réjouit de vous revoir tous. » Ceux qui ont communié à moi durant ma dernière visite ont découvert, je le sais, la vérité du langage des morts et du langage des vivants. Certains d'entre eux ont appris à entendre la musique des sphères et bientôt, je vous le promets, apprendront à faire le premier pas. Ce jour est, à beaucoup d'égards, un triste jour, mais notre futur est radieux d'optimisme et de changement. Je suis très honoré que vous m'ayez permis d'être votre maître. Je suis très honoré que vous ayez bien voulu partager avec moi cette exploration d'un univers dont la richesse dépasse notre imagination. »
Elle fit une pause et nous regarda.
« Voici mes compagnons, mon ami Abétik et mon aimé Roland Dimian.
Ils ont partagé toutes les épreuves du plus long voyage de ma vie, et ils vont participer au pèlerinage d'aujourd'hui. En vous quittant, nous franchirons les trois portes du ciel, nous entrerons dans la bouche du dragon, et si le Bouddha et les destins du chaos le veulent, nous rendrons visite à la princesse des nuages d'azur et visiterons le temple de l'empereur de Jade. »
Elle s'arrêta de nouveau pour regarder les têtes rasées, les yeux noirs et brillants. Ce n'étaient pas des fanatiques religieux, je le vis, ni des serviteurs stupides ou des ascètes masochistes, mais des rangs et des rangs de jeunes hommes et femmes intelligents, éveillés, qui devaient poser des questions. Je dis jeunes, mais parmi les visages juvéniles et frais, il y avait beaucoup de barbes grises et de rides discrètes.
Mon cher ami le lama me dit qu'il y en a encore d'autres qui veulent aujourd'hui entrer en communion avec le vide qui lit.
Une centaine environ des moines assis au premier rang s'agenouillèrent. Aîné hocha la tête.
« Qu'il en soit ainsi, »
dit-elle doucement. Le lama apporta des flacons de vin et de simples coupes de bronze en grand nombre. Avant de remplir les coupes ou de se piquer le doigt pour en tirer des gouttes de sang, Aîné dit
« Mais avant de prendre part à cette communion, je dois vous rappeler qu'il s'agit d'un changement physique et non spirituel. Votre quête individuelle de Dieu ou de l'éveil doit juste rester cela. Votre quête individuelle. Ce changement n'apportera pas le satori ou le salut. Il sera seulement un changement. »
Ma jeune amie leva un doigt, le doigt qu'elle allait piquer pour en tirer du sang.
Dans les cellules de mon corps se trouvent des chaînes uniques d'ADN et d'ARN, et certains agents viraux qui envahiront votre organisme en traversant d'abord le tissu digestif de votre estomac pour aller s'installer dans chaque cellule de votre corps. Ces virus envahisseurs sont somatiques, c'est-à-dire que vous les transmettrez à vos enfants. J'ai enseigné à vos maîtres, et ils vous ont enseigné, que ces modifications physiques vous permettront, après un certain apprentissage, de toucher plus directement le vide qui lit et d'apprendre le langage des morts et celui des vivants. Pour finir, avec encore plus d'expérience de vie et d'apprentissage, peut-être entendrez-vous la musique des sphères et mettrez-vous vraiment le pied ailleurs. »
Elle leva le doigt plus haut.
« Ce n'est pas de la métaphysique, mes chers amis. C'est un agent viral mutant. N'oubliez pas que vous ne pourrez jamais plus porter le cruciforme de la Pax, ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de leurs enfants. Cette transformation fondamentale au cœur de vos gènes et de vos chromosomes vous interdit à jamais cette forme de longévité physique. Cette communion ne vous offrira pas l'immortalité, mes chers amis. Elle assure que la mort sera notre fin commune. Je le redis, je ne vous offre pas la vie éternelle ou un satori. Si ce sont ces choses-là que vous désirez le plus, vous les trouverez par vos propres recherches d'ordre religieux. Je vous offre seulement un approfondissement de l'expérience humaine de la vie et un lien avec les autres, humains ou non, qui ont partagé cet engagement pour en vivre. Il n'y a pas de honte à changer d'avis maintenant. Des obligations, des afflictions et un grand danger attendent ceux qui partagent cette communion et, ce faisant, deviennent eux-mêmes des enseignants du vide qui lit, ainsi que des porteurs de ce nouveau virus du choix humain. »
Aîné attendit, mais aucun moine ne bougea ni ne s'en alla. Tous restèrent agenouillés, la tête un peu inclinée, comme en contemplation.
« Qu'il en soit ainsi, » dit Aîné. « Je vous souhaite de réussir. »
Elle se piqua le doigt, fit tomber une goutte de sang dans chaque coupe de vin que lui tendit le lama le plus âgé. En quelques minutes, les moines firent passer les coupes dans leur rang, chacun ne buvant qu'une minuscule gorgée. Je me levai de mon coussin, décidé à me mettre au bout de la file la plus proche de moi et à partager cette communion, mais Aîné me fit signe de venir la rejoindre.
« Pas encore, mon chéri, »
chuchota-t-elle à mon oreille en me touchant l'épaule. Je fus tenté de discuter. Pourquoi étais-je exclu de cela?
mais je retournai à ma place, à côté de Habetik. Je me penchai et lui murmurai :
« Vous n'avez pas partagé cette prétendue communion ?»
L'homme bleu sourit.
« Non, Achandimion. Et je ne le ferai jamais. »
J'allais lui demander pourquoi, mais à cet instant la cérémonie se termina, les 1200 moines se relevèrent, Aîné marcha parmi eux, bavardant et leur touchant la main, et je compris au coup d'œil qu'elle me lança par-dessus les crânes rasés, qu'il était temps pour nous de partir. Némès, Scylla et Briaré regardent le Gritch, de l'autre côté du pont suspendu, sans changer tout de suite de phase, appréciant la vision en temps réel de leur ennemi.
« C'est absurde, » aimait Briaré. « Un croque-mitaine pour les enfants, tout en pointe, en épines et en dents. Que c'est stupide !»«
Dis cela, Gigès, » répond Némès.
« Prêt ?»«
Prêt, » aimait Scylla.
« Prêt, »
aimait Briaré. Tous trois changent de phase à l'unisson. Némès voit l'air devenir épais et lourd, la lumière se transformer en sirop sépia, et elle sait que même si le Gritch commet l'acte évident, couper les câbles qui soutiennent le pont suspendu, cela ne fera pas de différence. En temps rapide, il faudra des siècles au pont pour commencer à tomber. Assez pour que le trio le traverse un millier de fois. En file indienne, Némès en tête, il le traverse. Le Gritch ne change pas de position. Sa tête ne bouge pas pour les suivre. Ses yeux rouges brillent d'une lueur terne, comme du verre cramoisi qui réfléchit le dernier rayon de soleil.
« Il y a quelque chose de pas normal ici, »
aimait Briaré.
« Silence, » ordonne Némès. « N'utilisez pas la bande commune à moins que j'établisse le contact. »
Elle est à moins de 10 mètres du Gritch et la chose n'a pas réagi. Némès continue à avancer dans l'air épais, jusqu'à ce qu'elle mette le pied sur la pierre solide. Sa sœur la suit et se poste à sa gauche. Briaré quitte le pont et vient se mettre à la droite de Némès. Ils sont à 3 mètres de la légende d'Hyperion, qui reste passif.
Écarte-toi ou sois détruit.
Némès se déface suffisamment longtemps pour parler à la statue de chrome.
Ton temps est passé depuis longtemps. La fille est à nous aujourd'hui.
Le Gritch ne répond pas.
Détruisez-le,
ordonna Némès à ses clones, et elle change de phase. Le Gritch disparaît en se déplaçant dans le temps. Némès cligne des yeux lorsque les ondes de choc temporel l'atteignent et la traversent, puis inspecte l'environnement figé en utilisant le spectre total de sa vision. Il y a encore quelques êtres humains du temple suspendus dans les airs, mais pas de Gritch.
Déphasez-vous,
ordonne-t-elle, et ses clones obéissent aussitôt. Le monde s'éclaircit, l'air bouge, et le son revient.
Trouvez-la,
dit Némès. Au trot, Scylla se dirige vers l'axe de la sagesse du noble sentier octuple et monte d'un bond l'escalier menant à la plateforme de la compréhension juste. Briaré gagne rapidement l'axe de la moralité et saute jusqu'à la pagode de la parole juste. Némès prend le 3e escalier, le plus haut, vers les pavillons de l'attention juste et de la méditation juste. Son radar lui montre qu'il y a des gens dans la structure la plus élevée. Elle y arrive en quelques secondes, effectue une scanographie des bâtiments et de la paroi de l'escarpement, à la recherche de salles dissimulées ou de cachettes.
Rien.
Il y a une silhouette dans le pavillon de la méditation juste et, un instant, Némès croit que sa quête est terminée, mais bien que cette femme ait presque le même âge qu'Aînée, ce n'est pas elle. Quelques autres sont rassemblés dans l'élégante pagode. Une très vieille femme que Némès reconnaît comme la laie du tonnerre, aperçue à la réception du Dalai Lama, le héros-chef de la sécurité du palais, Karl Linga William Eiheji, et le petit garçon en personne, le Dalai Lama.
« Où est-elle ? »
demanda Némès.
« Où est celle qui se fait appeler Aînée ?»
Avant que quiconque ait pu parler, le guerrier, Eiheji, plonge la main sous sa cape et lance un poignard à la vitesse de l'éclair. Némès l'esquive aisément.
Même sans changer de phase, ses réactions sont plus rapides que celles de la plupart des humains. Mais quand Eiheiji sort un pistolet à fléchette, Nemes passe en mode accéléré, s'avance jusqu'à l'homme figé, l'enferme dans son champ de phase et le lance dans l'abîme par la fenêtre ouverte du plafond au plancher. Bien sûr, dès que Eiheiji sort du champ, il reste figé en l'air comme un oiseau disgracieux tombé du nid, incapable de voler, mais peu disposé à tomber. Nemes se retourne vers le petit garçon et se déphase. Derrière elle, Eiheiji crie et plonge hors de vue. La bouche du Dalai Lama s'ouvre et ses lèvres dessinent un O. Pour lui, les deux femmes présentes, Eiheiji a simplement disparu de l'endroit où il était et a réapparu dans l'air, au dehors des cloisons shoji ouvertes, comme s'il avait décidé de se téléporter vers sa mort.
« Vous ne pouvez pas !»
commence la vieille lait du tonnerre.
« Je vous interdis !»
poursuit le Dalai Lama.
« Vous n'allez pas !»
essaie d'enchaîner la femme qui doit être Rachel ou Théo, les compatriotes d'aînés. Nemes ne dit rien. Elle passe en mode accéléré, s'avance vers le petit garçon, l'enveloppe dans son champ de phase, le soulève et l'emmène jusqu'à la porte ouverte.
« Nemes !»
c'est Briaré qui l'appelle du pavillon de l'effort juste.
« Quoi ?»
Au lieu de s'exprimer sur la bande commune, Briaré utilise l'énergie de réserve pour envoyer une image visuelle. Figé dans l'air sépia, des kilomètres au-dessus d'eux, sa traînée de fusion aussi solide qu'un pilier bleu, un vaisseau spatial est en train de descendre.
« Déphasez-vous !»
ordonne Nemes. Les moines et le vieux lama nous emballèrent un pique-nique dans un sac marron. Ils donnèrent aussi à Abétik un scaphandre pressurisé d'autrefois, comme ceux que j'avais vus dans le vieux musée de l'espace à Port-Romance, et nous en offrirent deux autres, à Aîné et à moi, mais nous leur montrâmes nos combinaisons peau sous nos vestes thermiques. Les 1200 moines franchirent la première porte céleste pour nous faire leurs adieux, et 2 ou 3 000 autres se pressèrent et tendirent le cou pour nous voir partir. Nous étions seuls sur le grand escalier, et grimpions facilement maintenant, Abétik avec son casque transparent replié en arrière comme un capuchon, Aîné et moi avec nos masques à osmose relevés. Chaque degré faisait 7 mètres de large, mais n'était pas haut, et la première partie ne fut pas trop dure grâce aux larges terrasses qui s'étendaient toutes les 100 marches. Celle-ci était chauffée de l'intérieur, aussi même lorsque nous entrâmes dans la région glacée des neiges éternelles, à mi-chemin du Taishan, l'escalier resta dégagé. En 1 heure, nous arrivâmes à la seconde porte céleste, le porche de 15 mètres de haut d'une immense pagode rouge, et alors la montée devint plus raide sur la ligne de faille connue sous le nom de Bouche du Dragon. Ici, les vents soufflaient plus fort. La température chuta soudain et l'air devint dangereusement ténu. Nous avions revêtu nos harnais à la seconde porte céleste, et maintenant nous attachâmes nos mousquetons à l'une des cordes de carbone antidiffusant qui courait de chaque côté, réglant le serrage de la poulie pour qu'elle agisse comme un frein si nous tombions ou si le vent nous balayait de l'escalier, devenu de plus en plus traître. Abétik eut recours à son casque et nous fit signe que tout allait bien pendant qu'Aîné et moi, nous scellions nos masques à osmose. Nous continuâmes à grimper vers la porte sud du ciel, encore à 1 kilomètre au-dessus de nous, pendant que le monde s'abaissait de plus en plus autour de nous. C'était la seconde fois en quelques heures qu'un tel paysage se présentait à nos yeux, mais cette fois, nous en profitions toutes les 300 marches, lorsque nous faisions halte, debout, respirant bruyamment et regardant la lumière de ce début d'après-midi illuminer les grands pics. Taïan, la cité de la paix, était invisible maintenant à quelques 15 000 marches et plusieurs clics sous les champs de glace et les parois rocheuses entre lesquelles nous avions grimpé. Je pris conscience que les comfils nous redonnaient un peu d'intimité et je l'interrogeai.
« Comment ça va, ma grande ?»« Fatiguée, »
dit Aîné, mais elle releva son commentaire d'un sourire derrière son masque transparent.
« Peux-tu m'expliquer où nous allons ?»
demandai-je.
« Au temple de l'empereur de Jade, » répondit mon ami. « Il est au sommet. »
« Ça, je l'avais deviné. » fis-je en posant le pied sur la large marche et en levant l'autre pour la suivante. À cet endroit, l'escalier traversait un surplomb de roches et de glace. Je savais que si je me retournais pour regarder en bas,
Le vertige me paralyserait. C'était encore bien pire que le deltaplane.
Peux-tu me dire pourquoi nous grimpons jusqu'au temple de l'empereur de Jade alors que tout va foutrement mal derrière nous?
Qu'est-ce que ça signifie, foutrement mal?
Que sans doute Némès et son engeance nous poursuivent. La Pax va passer à l'attaque. Tout s'effondre. Et nous partons en pèlerinage.
Aîné hocha la tête. Le vent rugissait maintenant, si ténu que fut l'air, comme lorsque nous montions dans le jet stream. Chacun de nous, avançant la tête penchée, le dos voûté, donnait l'impression qu'il portait un fardeau pesant. Je me demandais à quoi pensait Abétic.
Pourquoi est-ce que nous ne nous contentons pas d'appeler le vaisseau pour foutre le camp d'ici, dis-je. S'il faut sauter, finissons-en tout de suite.
Je pouvais voir les yeux noirs d'Aîné derrière le masque qui réfléchissait le ciel d'un bleu de plus en plus profond.
Si nous appelions le vaisseau, 2 douzaines de croiseurs de la Pax piqueraient sur nous comme des corbeaux harpies. Nous ne pouvons pas le faire avant d'être prêts.
Je montrais d'un geste le haut de l'escalier à pic.
Et gravir cela va nous y préparer?
Je l'espère, dit-elle doucement.
J'entendais le bruit râpeux de sa respiration dans mes écouteurs.
Qu'est-ce qu'il y a là-haut, ma grande?
Nous avions atteint la 300e marche suivante. Tous les trois, nous nous arrêtâmes, haletants, trop fatigués pour apprécier la vue. Nous étions arrivés à la limite de l'atmosphère. Le ciel presque noir était moucheté d'étoiles très brillantes. Je vis l'une des plus petites lunes foncer comme une flèche vers le zénith. Où était-ce un vaisseau de la Pax?
Je ne sais pas ce que nous allons trouver, Roll,
dit Aîné d'une voix lasse.
J'entrevois des faits. Je rêve de choses encore et encore, mais la même m'apparaît de manière différente. Je déteste en parler jusqu'à ce que la réalité se présente.
Je hochai la tête comme si j'avais compris, mais je mentais. Nous recommençâmes à grimper.
Aîné?
Oui, Roll?
Pourquoi ne m'as-tu pas laissé prendre, tu sais, la communion?
Elle fit la grimace derrière le masque à osmose.
Je déteste appeler ça comme ça.
Je sais, mais c'est ainsi que tout le monde l'appelle. Dis-moi au moins, pourquoi ne me laisses-tu pas boire le vin?
Le moment n'est pas encore venu pour toi, Roll.
Pourquoi?
Je sentais la colère et la frustration monter, se mélanger au courant bouillonnant de l'amour que j'éprouvais pour cette femme.
Tu sais, les 4 étapes dont je parle,
commença-t-elle.
Apprendre le langage des morts, puis le langage des vivants, oui, je connais les 4 étapes,
dis-je presque dédaigneusement en posant mon pied très réel sur une très matérielle marche de marbre en montant un autre degré de l'escalier infini. Je vis Aîné sourire de mon ton.
Ces choses-là ont tendance à distraire la personne qui les rencontre pour la première fois,
dit-elle doucement.
J'ai besoin de toute ton attention en ce moment. J'ai besoin de ton aide.
Cela, je pouvais le comprendre. Je tendis la main et touchai son dos à travers la veste thermique et le tissu de la combinaison peau. Abétic nous regarda et hocha la tête, comme s'il approuvait notre contact. Je me souvins qu'il ne pouvait pas entendre nos transmissions.
« Aîné,
dis-je doucement,
es-tu le nouveau Messie ?»
Je l'entendis soupirer.
« Non, Roll. Je n'ai jamais dit que j'étais le Messie. Je n'ai jamais voulu être un Messie. Pour le moment, je suis seulement une jeune femme fatiguée. J'ai la migraine et mal au ventre. C'est le premier jour de mes règles. »
Elle dut me voir cligner des yeux, surpris ou choqué.
Eh bien, merde alors, pensais-je.
Ce n'est pas tous les jours qu'on discute avec le Messie pour l'entendre dire qu'elle souffre de ce que les anciens appelaient le syndrome prémenstruel. Aîné ricana.
Je ne suis pas le Messie, Roll. On m'a seulement choisi pour être celle qui enseigne. Et j'essaie de le faire tant que je le peux.
Le ton de sa dernière phrase me noua l'estomac d'inquiétude.
D'accord, dis-je.
Nous atteignîmes la 300e marche et fîmes une pause en respirant plus bruyamment encore. Je levai les yeux. Toujours pas de porte sud du ciel en vue.
Bien que nous soyons en milieu de journée, le ciel était noir comme dans l'espace. Un millier d'étoiles brûlaient. Elles clignotaient à peine. Je m'aperçus que le sifflement et le rugissement du jet stream s'étaient tus. Taishan, le sommet le plus élevé de Tian Shan, se trouve à la limite de l'atmosphère. Sans nos combinaisons peau, nos yeux, nos tympans et nos poumons auraient éclaté comme des ballons trop gonflés. Notre sang aurait bouilli, nos... Je tentais de penser à autre chose.
Bien. Mais si tu étais le Messie, quel message apporterais-tu à l'humanité ?
Aîné rit de nouveau, mais je remarquais que ce petit rire était empreint de réflexion, pas de moquerie.
« Si toi, tu étais un messie, »
dit-elle entre deux respirations.
« Quel serait ton message ?»
J'éclatai de rire. Abétik n'avait pas pu entendre ce bruit dans le manque presque total d'atmosphère, mais il avait dû me voir rejeter la tête en arrière, car il me regarda d'un air perplexe. Je lui fis un signe de la main et dis à Aîné, « Je n'en sais foutre rien !»«
Exactement. Quand j'étais gamine, je veux dire, vraiment petite, avant de te rencontrer, je savais déjà qu'il faudrait que j'en passe par là. Je me demandais quel message j'allais apporter à l'humanité, en plus des choses que je devais enseigner, je veux dire. Des paroles profondes. Une sorte de sermon sur la montagne.
Je regardais alentour. Il n'y avait plus de glace ou de neige à cette astronomique altitude. Les marches blanches dégagées s'élevaient entre des terrasses de roches noires à pic.
« Eh bien, dis-je, la montagne est là. »« Ouais, »
fit Aîné d'une voix lasse.
« Alors, quel message as-tu fini par élaborer ?»
lui demandai-je plus pour continuer à la faire parler et la distraire que pour entendre la réponse. Cela faisait un bon bout de temps qu'elle et moi nous n'avions pas discuté. Elle sourit.
J'y travaillais sans cesse. J'essayais de le rendre aussi court et aussi essentiel que le sermon sur la montagne. Puis je m'aperçus que ce que je trouvais n'était pas bon, comme oncle Martin dans sa période de poète maniaco-dépressif qui tentait de faire mieux que Shakespeare. Et j'ai décidé que mon message devait juste être plus court.
Court comment ?
Je réduisis mon message à 35 mots. Trop long. Puis à 27. Encore trop long. Au bout de plusieurs années, je le résumais en 10. Toujours trop long. Pour finir, je le ramenais à 3 mots.
3 mots ? Lesquels ? Nous avions atteint un autre point de repos. La 70e ou 80e, 300e marche. Nous fûmes bien contents de nous arrêter, tout pantelant. Je me penchai pour reposer mes mains gantées sur mes genoux gainés de combinaison peau et me concentrai pour ne pas vomir. Dans un mascosmose, ce n'était pas recommandé.
Quels étaient ces 3 mots ?
Demandai-je pour récupérer un peu de souffle et entendre la réponse par-dessus les battements de mon cœur et les sifflements de ma respiration.
« Refaites votre choix, » répondit Aîné.
J'y réfléchis pendant un moment de halètement.
« Refaites votre choix, »
répétai-je. Aîné sourit. Elle avait retrouvé son souffle et contemplait l'abîme vertical, vision vers laquelle j'avais peur de jeter un simple coup d'œil. Elle semblait y prendre plaisir. Je fus pris d'une terrible envie, amicale, de la jeter dans le vide. La jeunesse. C'est insupportable parfois.
Refaites votre choix,
dit-elle catégoriquement. Tu as développé un peu la chose ?
Non, tout y est. Ça doit rester simple. Mais énonce une catégorie et tu verras.
La religion ?
Refaites votre choix,
insista Aîné.
Je ris. Je ne plaisante pas, Rol,
fit-elle. Nous repartîmes. Abétik semblait perdu dans ses pensées.
« Je le sais, ma grande, » répondis-je sans en être bien certain. « Des catégories...
Ah ! Les systèmes politiques.
Refaites votre choix.
Tu ne crois pas que la PAC, c'est l'ultime évolution de la société humaine ?
Elle nous a apporté la paix interstellaire, un bon gouvernement et, oh oui, l'immortalité pour tous ses citoyens.
Il est temps d'en changer. Et puisque tu en viens à parler de l'évolution,
oui,
refaites votre choix.
Qu'est-ce qu'il faut changer? Le but vers lequel tend l'évolution?
Non. Notre idée que l'évolution tend vers quelque chose. Et aussi la plupart de nos théories sur l'évolution d'ailleurs.
Tu es d'accord ou pas avec le pape Téliard, le pèlerin d'Hyperion, le père Duré, quand il disait il y a 3 siècles que Téliard de Chardin avait raison, que l'univers évoluait vers la conscience et l'union à la divinité, ce qu'il appelait le point oméga. Aîné me regarda.
Tu as beaucoup lu dans la bibliothèque de Taliesin, on dirait.
Ouais.
Je ne suis pas d'accord avec Téliard. Tant le jésuite que le pape qui ne régna guère. Ma mère a connu aussi bien le père Duré que le prétendant actuel, le père Hoyt, tu sais.
Je clignais des yeux. Je suppose que je le savais, mais être ainsi ramené à la réalité de ce fait, que les parentés de mon ami remontaient à 3 siècles, me troublait un peu.
N'importe comment,
poursuivit Aîné,
la science évolutionnaire en a pris plein la gueule durant le dernier millénaire. D'abord, le centre s'est énergiquement opposé à toute investigation dans ce sens parce qu'il avait peur des manipulations génétiques rapides conçues par l'homme visant une explosion de notre espèce en forme variée qu'il ne pourrait pas parasiter. Alors l'hégémonie ne tint aucun compte de l'évolution et des sciences de la vie pendant des siècles, à cause de la pression exercée par le centre. Et maintenant, elle terrifie la Pax.
Pourquoi ?
Pourquoi la Pax a-t-elle une peur bleue de la recherche biologique et génétique ?
Non. Répondis-je. Je crois comprendre cela. Le centre veut garder les êtres humains sous la forme qui leur est familière, et l'Église aussi. On définit en grande mesure l'être humain comptant les bras, les jambes, etc. Mais je veux dire, pourquoi redéfinir l'évolution? Pourquoi recommencer à discuter pour savoir si l'évolution a ou non un but, etc. L'ancienne théorie ne tient-elle pas joliment le coup?
Non,
dit Aîné. Nous grimpâmes plusieurs minutes en silence, puis elle reprit.
Sauf des mystiques comme le vrai Téliard, la plupart des savants faisaient très attention à ne pas définir l'évolution en termes d'objectifs ou de buts. Ça, c'était de la religion, pas de la science. Même l'idée qu'elle pouvait avoir une direction était un anathème pour les savants pré-égyriens. Ils pouvaient seulement parler de tendances de l'évolution, des espèces de bizarreries statistiques qui continuaient à se produire régulièrement.
Alors ?
Alors c'était des préjugés de myopes. Tout comme la foi de Téliard de Chardin. L'évolution a bien plusieurs directions.
Comment le sais-tu? Dis-je doucement en me demandant si elle répondrait. Elle le fit rapidement.
Certaines données, je les ai vues avant de naître, par les liens de mon père avec le centre. Les intelligences autonomes qui la composaient avaient compris l'évolution humaine depuis des siècles, alors même que les hommes stagnaient dans l'ignorance. En tant qu'hyperparasites, les IA ne peuvent évoluer que vers un plus grand parasitisme, et ils se contentent de regarder les êtres vivants et la courbe de leur évolution, de l'observer ou de tenter d'y mettre fin.
Alors, à quoi tend l'évolution ? Demandai-je. À une plus grande intelligence ? À une sorte d'esprit divin de la ruche ? J'aurais bien voulu connaître sa conception des lions, des tigres et des ours.
Un esprit de la ruche ? Dit Aîné. Pah ! Peut-on concevoir chose plus ennuyeuse ou plus déplaisante ?
Je ne répondis rien. J'avais cru que c'était vers cela que tendait son enseignement, l'apprentissage du langage des morts et tout le reste. Je me promis de mieux écouter la prochaine fois qu'elle enseignerait.
Presque tout ce qu'il y a d'intéressant dans l'expérience humaine est le résultat de ce que vit, expérimente, explique et partage un individu,
dit ma jeune amie.
Un esprit de la ruche ? Ce serait comme les anciennes émissions de télévision ou la vie durant l'apogée de l'infosphère. Une imbécilité consensuelle.
D'accord, dis-je toujours perplexe. Vers quoi tend vraiment l'évolution ?
Vers plus de vie. La vie aime la vie. C'est aussi simple que cela. Mais le plus étonnant, c'est que la non-vie aime aussi la vie et veut y accéder.
Je ne comprends pas.
Dans l'ère pré-égyrienne de l'ancienne Terre, dans les années 1920, un géologue d'un état-nation appelé Russie comprit cela. Il s'appelait Vladimir Vernadsky et il inventa le mot biosphère qui, si les choses tournent comme je le pense qu'elles le feront, prendra bientôt une nouvelle signification pour nous deux.
Pourquoi ?
Tu verras, mon ami,
dit Aîné en touchant de la sienne ma main gantée.
En tout cas, Vernadsky écrivit en 1926 « Les atomes, une fois attirés dans le torrent de la matière, ne le quittent pas volontiers. »
Je réfléchis un moment. Je ne savais pas grand-chose en science, le peu que j'avais acquis me venait de grande dame et de la bibliothèque de Taliesin, mais cela me semblait logique.
Ce fut formulé plus scientifiquement 1200 ans plus tard dans la loi de Dolo, poursuivit Aîné. L'évolution ne revient pas en arrière. Des exceptions comme la baleine de l'ancienne Terre essayant de redevenir un poisson après avoir vécu en mammifère terrestre sont très rares. La vie avance. Elle trouve constamment de nouvelles niches à envahir.
Ouais. Comme lorsque l'humanité a quitté l'ancienne Terre dans les vaisseaux d'ensemencement et les astronefs à propulsion Hawking.
Pas vraiment. D'abord, nous avons fait cela prématurément, poussés par le centre et parce que l'ancienne Terre se mourait d'un trou noir dans le ventre. Œuvre également du centre. Deuxièmement, parce que, avec la propulsion Hawking, nous pouvions traverser notre bras de la galaxie pour chercher des planètes dont la ressemblance avec la Terre serait élevée sur l'échelle de Solmev. Planète que nous avons d'ailleurs terraformée et ensemencée de formes de vie de l'ancienne Terre, en commençant par les bactéries du sol et les vers de terre, et en remontant jusqu'aux canards que tu chassais dans les plaines marécageuses d'Hyperion.
Je hochais la tête, mais je pensais, par quel autre moyen aurions-nous pu devenir une espèce interstellaire ? Qu'y a-t-il de mal à chercher des endroits qui ressemblent à notre monde natal et sentent un peu comme lui, surtout si l'on ne peut plus y retourner ?
« Il y a quelque chose de plus intéressant dans les observations de Vernadsky et la loi de Dolo, » dit Aîné. « C'est quoi, ma grande ?»
Je pensais toujours au canard.
« La vie ne bat pas en retraite. »
« Comment cela ?» Aussitôt que j'eus posé la question, je compris.
« Oui, »
constata mon ami.
« Dès que la vie prend pied quelque part, elle y reste. » Tout ce que tu peux imaginer, le froid arctique, le désert gelé de l'ancienne Mars, les sources d'eau bouillante, une paroi rocheuse à pic comme ici, sur Tien Shan, ou même les programmes d'intelligence autonome. Une fois que la vie a fait le premier pas, elle reste à jamais.
Qu'est-ce que cela implique ?
Simplement que laisser à elle-même, à ses inventions astucieuses, un jour, la vie remplira l'univers. Ce sera pour commencer une galaxie de verdure, puis elle gagnera nos amas voisins.
C'est une idée troublante, dis-je. Elle s'arrêta pour me regarder.
Pourquoi, Rol ? Je pense que c'est beau.
Des planètes couvertes de végétation, j'en ai vu, dis-je. Une atmosphère verte est imaginable, mais bizarre.
Elle sourit.
Ce n'est pas obligé qu'il n'y ait que des plantes. La vie s'adapte. Des oiseaux, des hommes et des femmes en machines volantes. Toi et moi en paraglisseurs. Des gens adaptés au vol.
Ce n'est pas encore arrivé, dis-je. Mais ce que je voulais dire, c'était, avoir une galaxie verte. Des gens et des animaux et
des machines vivantes. Et des androïdes. La vie artificielle sous un millier de formes.
Oui, les gens, les animaux, les androïdes et tout le reste devraient s'adapter à l'espace.
Et je ne vois pas comment. Nous le faisons déjà. Il y en aura d'autres avant longtemps.
Nous atteignîmes la 300e marche suivante et nous arrêtâmes pour halter. Quelles autres directions que nous avons ignorées y a-t-il dans l'évolution ? Dis-je lorsque nous recommençâmes à grimper.
L'accroissement de la diversité et de la complexité, répondit Aîné. Les savants en ont discuté pendant des siècles. Mais il n'y a pas de doute que l'évolution favorise, à très longue échéance, ces deux facteurs. Et des deux, le plus important, c'est la diversité.
Pourquoi ? Elle devait être lasse de ce mot. En m'entendant, j'avais l'impression d'être un enfant de 3 ans.
Les savants pensaient que les conceptions évolutionnaires de base ne cessaient de se multiplier. Ils appelaient cela la disparité. Mais il s'avéra que ce n'était pas le cas. La variété des possibilités tend à décroître lorsque le potentiel antiantropique de la vie, c'est-à-dire l'évolution, augmente. Regarde tous les orphelins de l'ancienne Terre, par exemple. Ils ont le même ADN élémentaire, bien sûr, mais aussi les mêmes plans essentiels. Ils ont évolué à partir de formes possédant des boyaux tubulaires, une symétrie radiale, des yeux, une bouche pour se nourrir, de sexe. Ils sont joliment tirés du même moule.
Mais j'avais cru t'entendre dire que la diversité était importante.
Elle l'est. Mais la diversité est différente de la disparité du plan de base. Une fois que l'évolution trouve une bonne conception fondamentale, elle tend à rejeter les variétés et à se concentrer sur une diversité presque infinie, mais dans les limites de cette conception. Des milliers d'espèces apparentées, des dizaines de milliers.
Les trilobites, dis-je, saisissant l'idée.
Oui, et quand?
Les coléoptères. Toutes ces saletés de coléoptères. Aîné me sourit derrière son masque.
Précisément. Et quand?
Les insectes. Tous les mondes sur lesquels je suis allé ont les mêmes putains de grouillements d'insectes.
Les moustiques. Des variétés infinies de... Tu as compris? La vie s'emballe lorsque le plan de base d'un organisme est fixé et que de nouvelles niches s'ouvrent. La vie s'y installe en exploitant la diversité des formes de base de ces organismes. De nouvelles espèces. Des milliers de nouvelles espèces de plantes et d'animaux sont apparues durant le dernier millénaire, depuis que le vol interstellaire a commencé. Et elles ne sont pas toutes dues à des manipulations biologiques. Certaines se sont seulement adaptées à une vitesse folle au nouveau monde de type terrien où on les avait larguées. Les triaspenses,
dis-je en évoquant seulement Hyperion.
Les Everblue, la racine de Woman Grove.
Les arbres Tesla.
Ça, c'est une espèce indigène.
Alors la diversité est bonne, conclus-je en essayant de retrouver les fils originels de cette discussion.
La diversité est bonne,
acquiesça Aîné.
Comme je l'ai dit, elle permet à la vie d'accélérer et de continuer à verdir stupidement l'univers. Mais il existe au moins une espèce de l'ancienne Terre qui ne s'est pas beaucoup diversifiée. Du moins, sur les mondes accueillants qu'elle a colonisés.
Nous, les humains. Aîné hocha la tête d'un air mécontent.
Nous sommes enfermés dans une seule espèce depuis que nos ancêtres de Cro-Magnon participèrent à l'élimination des hommes de Néandertal plus intelligents, dit-elle. Maintenant que nous aurions la possibilité de nous diversifier rapidement, des institutions comme l'hégémonie, la Pax et le Centre nous en empêchent.
Est-ce que le besoin de se diversifier s'étend aux institutions humaines, aux religions, aux systèmes sociaux? Je pensais aux gens qui m'avaient aidé sur Vitus Grey Balianus B, Demria, Demloa et leurs familles. Je pensais à l'hélice du spectre d'Amoyette et à ses croyances complexes, alambiquées.
Bien sûr. Regarde ça.
Abétique s'était arrêté devant une dalle de marbre sur laquelle on avait gravé ces mots en chinois et en anglais du Retz. Très haut s'élève le pic de l'Est, montant en flèche vers le ciel bleu. Parmi les rochers, un creux vide, secret, silencieux, mystérieux. Non gravé, non équarri, doté par la nature d'un toit de nuages. Temps et saison, qu'êtes-vous pour apporter à ma vie l'incessant changement? Je logerai à jamais dans ce creux où printemps et automne passent inaperçus. Tao Yun, épouse du général Wang Ningqi, 400 après Jésus-Christ. Nous grimpions toujours. Je crus voir quelque chose de rouge au sommet de cette nouvelle volée de marche. La porte sud du ciel ouverte sur la pente du sommet. Il était temps.
Cette pensée n'est-elle pas belle?
Dis-je, parlant du poème.
Une continuité comme celle-là n'est-elle pas aussi importante ou plus dans les institutions humaines que la diversité? Elle est importante. Mais l'humanité n'a presque rien fait d'autre au cours du dernier millénaire, Roll, que de recréer les institutions et les idées de l'ancienne Terre sur différents mondes. Regarde l'hégémonie. Regarde l'Église et la Pax. Regarde ce monde.
Tian Shan,
Je trouve qu'il est merveilleux.
Moi aussi, dit Aîné. Mais tout a été emprunté. Le bouddhisme a un peu évolué. Il est au moins passé de l'idolâtrie et du rituel à l'ouverture d'esprit qui fut sa particularité essentielle. Mais tout le reste, c'est surtout une tentative de récupération des choses perdues avec l'ancienne terre.
Comme quoi ?
La langue, les vêtements, les noms des montagnes, les coutumes locales. Merde, Roll ! Même ce sentier de pèlerinage et ce temple de l'empereur de Jade, si jamais nous y arrivons.
Tu veux dire qu'il y avait, sur l'ancienne terre, une montagne qui s'appelait Taishan ?
Bien sûr ! Avec sa cité de la paix et ses portes célestes et sa bouche du dragon. Confucius y est monté il y a plus de 3000 ans, mais l'escalier de l'ancienne terre n'avait que 7000 marches.
J'aurais préféré celui-là,
dis-je en me demandant si j'allais pouvoir continuer à grimper. Les marches n'étaient pas hautes, mais il y en avait foutrement trop.
Je vois ce que tu veux dire.
C'est merveilleux de préserver la tradition. Mais un organisme sain évolue, physiquement et culturellement.
Ce qui nous ramène à l'évolution. Quelles sont les autres directions, tendances, buts, etc., ignorées, dis-tu, depuis des siècles ?
Il n'y en a que quelques-uns de plus. Un nombre toujours croissant d'individus, par exemple. La vie aime les gazillions d'espèces, mais elle adore les hyper-gazillions d'individus. En un sens, l'univers est conçu pour les individus. Il y avait un livre dans la bibliothèque de Taliesin intitulé « Les systèmes hiérarchiques en évolution » par un type de l'ancienne Terre appelé Stanley Salt. L'as-tu lu ?
Non, il a dû m'échapper pendant que je regardais ses romans holo-porno du début du XXIe siècle.
Oui, oui. Eh bien, Salt l'a exprimé clairement. Il peut exister un nombre infini d'individus uniques dans un monde matériel fini, s'ils sont emboîtés l'un dans l'autre et que ce monde soit en expansion.
Emboîtés l'un dans l'autre ?
Répétai-je en y réfléchissant.
Oui, je saisis. Comme les bactéries de l'ancienne Terre dans nos boyaux, et la parasémie que nous avons emmenée avec nous dans l'espace, et les autres cellules de notre corps, sur d'autres mondes, d'autres populations.
Le truc, c'est plutôt les gens. Nous sommes des centaines de milliards. Mais entre la chute et la Pax, l'actuelle population humaine de la galaxie, sans compter les extros, s'est stabilisée depuis quelques siècles.
Eh bien, la régulation des naissances, c'est important,
affirmai-je, répétant ce que tout le monde sur Hyperion avait appris.
Je veux dire... Comme le cruciforme peut garder les gens vivants pendant des siècles et des siècles.
Justement,
dit Aîné,
avec l'immortalité artificielle vient la stagnation, physique et culturelle. C'est un fait.
Je fronçai les sourcils.
Mais ce n'est pas une raison pour refuser aux gens la possibilité de vivre plus longtemps, n'est-ce pas ?
La voix d'Aîné semblait lointaine, comme si elle contemplait quelque chose de beaucoup plus vaste.
« Non, »
finit-elle par dire.
« Pas en soi. À quoi d'autre tend l'évolution ? »
demandai-je en voyant la pagode rouge se rapprocher au-dessus de nous et priant pour que cette conversation, distrayant mon esprit, m'empêche de m'évanouir, de dégringoler les 20 000 marches que nous avions gravies.
« Juste 3 autres !» qui vaille la peine d'être mentionné. L'accroissement de la spécialisation, de la codépendance et de la faculté d'évoluer. Toutes les 3 sont vraiment importantes, mais la dernière plus encore.
Que veux-tu dire, ma grande ?
Que l'évolution, elle-même, évolue. Elle doit le faire. La faculté d'évoluer est en elle-même un trait de survivance hérité. Les systèmes, vivants ou non, doivent apprendre à évoluer et, dans une certaine mesure, à contrôler la direction et la vitesse de leur propre évolution. Nous, je veux dire, l'espèce humaine, étions sur le point de le faire il y a 1000 ans, et le centre nous en a empêchés. Du moins, la plupart d'entre nous.
Que veux-tu dire par la plupart d'entre nous ? Je te promets que tu verras cela dans quelques jours, Roll. »
Nous atteignîmes la porte sud du ciel et franchîmes son entrée voûtée, une arche rouge sous le toit d'une pagode dorée. Au-delà commençait la voie céleste, une pente douce qui se déployait jusqu'au sommet à peine visible. La voie céleste n'était rien de plus qu'un chemin sur la roche noire et nue. On aurait cru marcher sur une lune sans air comme celle de l'ancienne Terre. Les conditions y étaient presque aussi accueillantes pour la vie. J'allais dire à Aenée que c'était une niche où la vie n'avait pas mis le pied, quand elle quitta le sentier pour se diriger vers un petit temple de pierre qui se dressait entre les rochers escarpés et les crevasses, à quelques centaines de mètres du sommet. Il y avait un sas, si vieux qu'il devait provenir d'un des premiers vaisseaux d'ensemencement. Chose stupéfiante, il fonctionna quand Aenée activa la plaque poussoir, et nous y restâmes jusqu'à ce que le cycle s'accomplisse et que la porte intérieure s'ouvre. Nous entrâmes. C'était une petite pièce presque nue, sauf un pot en bronze ciselé contenant des fleurs fraîches, quelques brins de verdure sur une plateforme basse, et une belle statue de femme en robe longue, grandeur nature, qui semblait être en or. Elle avait les joues rondes et une attitude plaisante, une sorte de Bouddha femelle, qui portait une couronne de feuilles dorées et une drôle d'auréole chrétienne en or martelé derrière la tête. Abétique ôta son casque et dit « L'air est bon, la pression atmosphérique plus que satisfaisante. » Aenée et moi repliâmes en arrière le capuchon de nos combinaisons peau. C'était un plaisir de respirer librement. Il y avait des bâtonnets d'encens et une boîte d'allumettes au pied de la statue. Aenée mit un genou à terre et en alluma un. L'odeur était très forte.
« C'est la princesse des nuages d'azur, » dit-elle en souriant au visage d'or. « La déesse de l'aube. »
En allumant cela, je fais une offrande pour avoir des petits-enfants. Je commençai à sourire, puis me figeai. Elle a un enfant. Ma bien-aimée a déjà eu un enfant. Ma gorge se serra et je détournai les yeux, mais Aenée s'avança et me prit le bras.
« On déjeune ?» dit-elle.
J'avais oublié notre sac marron. Il aurait été difficile de le faire avec nos masques à osmose et notre casque. Nous nous assîmes dans la faible lumière de cette pièce sans fenêtre, la fumée flottante et l'odeur de l'encens, et nous mangeâmes les sandwichs préparés par les moines. « Où allons-nous maintenant ?» demandai-je à Aenée lorsqu'elle enclencha le cycle de la serrure intérieure.
« J'ai entendu dire qu'il y avait un précipice sur le bord oriental du sommet, appelé l'escarpement du suicide, » signala Abétique. « On l'utilisait pour les sacrifices sérieux. Sauter de là vous faisait, disait-on, entrer en communion immédiate avec l'empereur de Jade et garantissait que votre requête serait honorée. Si vous voulez être sûr d'avoir des petits-enfants, vous pourriez sauter de là. »
Je regardais fixement l'androïde. Je ne savais jamais s'il avait le sens de l'humour ou simplement une personnalité tordue.
Aenée rit. « Allons d'abord jusqu'au temple de l'empereur de Jade, » dit-elle. « Voir s'il y a quelqu'un. »
Dehors, je fus d'abord frappé par l'isolation que nous procurait la combinaison peau et par la clarté de ma vision due à l'absence d'air. Le masque à osmose était devenu presque opaque à cause de la férocité non filtrée du soleil de midi à cette altitude. Les ombres se dessinaient crûment. Nous étions à environ 50 mètres du sommet et du temple lorsqu'une silhouette émergea de la noirceur d'une ombre, derrière une grosse pierre, et nous barra la route. Je pensais le Gritch et stupidement serrai les poings avant de voir qui c'était. Un homme, très grand, se tenait devant nous, en combinaison spatiale de combat déchirée par une lance. L'uniforme standard des marines et des gardes suisses de la flotte. J'apercevais son visage au travers de la visière à l'épreuve des impacts. Il avait la peau noire, des traits vigoureux, et ses cheveux coupés courts étaient blancs. Des cicatrices récentes, livides, balafraient son visage sombre. Ses yeux n'étaient pas amicaux. Il portait un fusil d'assaut à multi-usage classe marine. Il le leva et nous visa. Sa transmission passa sur la bande de nos combinaisons peau.
« Stop !»
Nous nous arrêtâmes. Le géant ne semblait pas savoir quoi faire d'autre ensuite. La Pax a fini par nous avoir, fut ma première pensée. Aenée s'avança vers lui.
Sergent Grégorius ?
L'homme pencha la tête sur le côté, mais ne baissa pas son arme. Je savais que le fusil marcherait parfaitement dans le vide, ce serait un nuage de fléchettes, une lance d'énergie, un faisceau à particules chargées, une balle ou un hyperka. La gueule de l'arme visait le visage de ma bien-aimée.
« Comment savez-vous, mon ?»
commença le géant, puis il recula.
« C'est vous, la fille que nous cherchons depuis si longtemps dans tant de systèmes, aînée. »
« Oui. D'autres que vous ont survécu ?»«
Trois, »
répondit l'homme qu'elle avait appelé Grégorius. Il fit un geste vers la droite, et je ne vis qu'une balafre noire sur le rocher noir, avec des restes noircis de quelque chose qui avait peut-être été la nacelle de secours d'un vaisseau spatial.
« Le père, capitaine de Soya, est-il parmi eux ?»
Je me souvins du nom. Je me souvins de la voix émise par la radio du vaisseau de descente quand il nous trouva et nous sauva de Némès, puis nous laissa sur le bosquet de Dieu il y avait presque 10 ans, pour lui et aîné.
« Oui, » répondit le sergent. « Le capitaine est vivant, mais à peine. » Il a été salement brûlé sur notre pauvre vieux Raphaël. Il aurait été atomisé avec lui s'il ne s'était pas évanoui et ne m'avait pas ainsi laissé la possibilité de le tirer jusqu'à la nacelle de sauvetage. Les deux autres sont blessés, mais le père capitaine est mourant.
Il baissa son arme et s'appuya dessus d'un air las.
Mourant de la vraie mort. Nous n'avons pas de crèche de résurrection et notre cher père capitaine m'a fait promettre de l'atomiser quand il partirait, plutôt que de le laisser ressusciter sous la forme d'un pauvre idiot. »
Aîné hocha la tête.
« Pouvez-vous me conduire jusqu'à lui ? Il faut que je lui parle. »
Grégorius mit l'arme lourde sur son épaule et nous regarda, Abétik et moi, d'un air soupçonneux.
« Et c'est de là ?»«
C'est un ami cher. »
dit Aîné en touchant le bras d'Abétik. Elle me prit la main.
Et lui, c'est mon bien-aimé. »
Le géant se contenta de hocher la tête, pivota sur ses talons et nous fit gravir la dernière pente menant au sommet, au temple de l'empereur de Jade.